Peux-tu nous dire lesquels?
Alors, justement, la date avec Éric Cordier et Leandro Barzaval, le 29 novembre.
Ouais.
Après, tu prends le relais pour le mois de décembre, je te laisse.
Ouais, on a le... Alors, je me souviens plus des dates.
Ah bah c'est moi aussi. tu nous prends de court, là.
Le 12 décembre, on a... Mais je crois qu'il y a une date avant, pardon.
Non, c'est ça. Large retenue.
Le 12 décembre, ce sera Large retenue. C'est la deuxième édition d'une soirée de musique expérimentale qu'on a commencé l'année dernière.
Ouais.
Où il y aura, a priori, 3 projets, mais peut-être 4. On verra. Avec le projet Batterie Fragile, un artiste exilé de Russie qui s'appelle Leonid Kotelnikov, aka Fake Trailers, et Otoninski, et Otoninski, voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant, pas trop en dévoiler, mais en tout cas ce sera vraiment musique expérimentale, noise, toujours sous le prisme du geste, quoi, de l'action, la performance.
La présence du corps.
Ouais. Et le 19 décembre, François Durif, qui donc est programmé dans Frasque le 17 octobre, revient pour la suite de sa lecture performée, aux côtés du musicien Timothée Coste.
Ah, super. Ah, très bien, Timothée, ouais.
Ouais, ces dates sont en lien avec, bien sûr, l'édition de son nouveau livre qui va avoir lieu la semaine prochaine, Torno Subito. Et c'est en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles et la Maison de la Poésie. Voilà. Je vais juste dire que Teenage God, c'est aussi Romain qui nous en a parlé, qui nous écoute.
Oui,
comme ça, au moins, c'est évacué. Je vais pas me faire taper dessus lundi.
C'est Romain.
Ouais, c'est Romain.
Merci Romain.
Romain. Et sur le Romain.
Puis très peut-être bien. Qu'il faut qu'on dise.
Les tarifs et tout ça,
ça,
on trouve ça sur le site, j'imagine.
D'accord.
Ouais, toutes les infos, réservations, billetterie, infos pratiques sont sur legénérateur.com.
Si vous voulez, je fais une petite lecture performative.
Non, on n'aura pas le temps là. Et par contre, je veux préciser qu'il y a un nouveau moyen pour se rendre au générateur, c'est la ligne 14.
Absolument.
Ah ouais,
c'est
précieuse
information. Maison Blanche ou l'opéra
non.
L'hôpital du Kremlin.
Oui, l'opéra du Kremlin. Je suis venu samedi dernier, je suis venu comme ça à l'hôpital.
C'est vrai.
Ah ouais, après.
Non, mais en fait, le 57, c'est quand même génial. Hein.
Ah oui, ouais, oui, bien sûr.
C'est carrément
sûr.
Devant, là.
Non, il y a la ligne 14. Ben, merci à toutes et tous pour votre présence. On termine avec Strash IPK. Non, je ne sais plus comment on dit. Et puis la semaine prochaine, nous recevons la saxophoniste allemande Louise Volkmann. Merci à toutes et tous.
Avec
allez,
plaisir.
Salut.
Merci.
mange. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les villes neuves. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin, j'étais blessé chez mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse de la preuve. La rage. La rage.
La rage. Chers auditeurs de La Rage Dedans, la nouvelle émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, diffusée le vendredi de 16h30 à 17h30. Je reçois aujourd'hui comme premier invité de La Rage Dedans, Thierry Gadeau. Thierry, bonjour.
Bonjour, Mariama.
Alors, Thierry Gadeau est journaliste d'investigation. Pour ceux qui ne connaissent pas Thierry, je vous renvoie au site du groupe Louise Michel, où toutes ces émissions sont archivées, et notamment une sur l'île sans eau, la Guadeloupe, qui nous a valu un scoop sur un certain Marc Ferracci qui a fait son chemin depuis. Je te laisse.
Oui, c'était le livre que j'ai coécrit avec Marc Lémé, un grand spécialiste des questions d'eau et d'assainissement en France. Et effectivement, quand tu nous avais invité ce jour-là, sortait sur le site de Blast l'enquête sur Marc Ferracci et Papa Ferracci, qui est le président et principal actionnaire du grand groupe Secafi Alpha, qui est spécialisé dans l'audit et le conseil pour les syndicats et les comités d'entreprise, et dans lequel on dévoilait le rôle central de Marc Ferracci et donc ses conflits d'intérêts, ses confusions entre ses intérêts privés et publics, parce que c'était lui le principal conseiller de Macron dans la mise en œuvre des politiques de l'emploi en France.
Alors, je vous renvoie à l'émission qui est sur le site du groupe Louise Michel. Alors aujourd'hui, on ne quitte pas les Antilles. Je t'ai invité, Thierry, pour que tu nous parles de la crise qui a débuté le 1er septembre.
Oui, tout à fait. Alors la crise, maintenant, je pense que quasiment tout le monde est au courant qu'il y a une grosse crise sociale aux Antilles, alors qui a pris forme particulièrement en Martinique, mais il y a aussi des émeutes la nuit dans quelques villes en Guadeloupe en ce moment. Et cette crise a un point commun avec celle de 2009, notamment des grandes grèves qui avaient lieu en janvier, février jusqu'au début du mois de mars dans les deux îles et qui étaient contre la vie chère, contre la profitation. Et donc, en fait, contre le système économique en œuvre aux Antilles et qui est en fait la poursuite du système économique colonial mis en place à l'époque de l'esclavagisme et des colonies dont on n'est pas sorti, et que ton invité historien du mois de janvier a expliqué très bien à ton micro. Donc, pour tous ceux qui veulent comprendre les origines de la crise actuelle, ça serait super qu'ils écoutent cette émission qui doit être en accès sur le...
Oui, c'est l'émission de Marc Bélissa, La Révolution française et les colonies. Je l'avais reçu pour son livre qui s'appelle La Révolution française et les colonies, édité chez La Fabrique. Donc 90 minutes passionnantes. Merci.
Oui, oui, je l'ai écouté. C'est un super historien, très clair. très pédagogue, et il explique bien justement comment s'est constituée cette économie de comptoir. Et en fait, aujourd'hui, on n'en est toujours pas sorti. Les Antilles, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, sont toujours des économies de comptoir. C'est la raison de la crise, la raison profonde de la crise. Donc on pourra revenir et je pourrais expliquer pourquoi ces îles, malgré la modernisation qui s'est produite dans les années 60 jusqu'à la fin des années 90, n'a pas permis aux îles de sortir de cette économie de comptoir.
Alors, on apprend par ton excellent article dans le journal Libération,
merci,
du 20 septembre 2024, publié à 6h30 du matin. Il est en libre accès sur le site de Libération. Il faut vraiment le lire. On apprend que concrètement, 27% de la population et 32% des enfants sont en situation de pauvreté, selon l'INSEE, dans les Antilles.
Oui, c'est un chiffre. Alors, le taux de pauvreté en France, c'est 14% hein, sur la moyenne nationale. Donc déjà 27% pour l'ensemble de la population martiniquaise, c'est quand même ahurissant. C'est à peu près le même chiffre en Guadeloupe. Et 32% des enfants, mais c'est rien que ça, ce chiffre retourne le cœur. Donc on devrait tous manifester aux côtés des nos concitoyens martiniquais, parce que c'est un scandale, c'est un vrai scandale.
Oui. Et les prix alimentaires, les produits alimentaires sont 42% en moyenne plus chers. Il y a un excellent graphique dans ton article qui montre que les articles d'habillement et de chaussures, c'est plus 8,5%. Les biens et services, c'est plus 10,5%. Mais surtout, les produits alimentaires, c'est plus 42%. Les communications, plus 37%. Concrètement, un paquet de pâtes qu'on paye 1 euro et quelques, il va coûter 9 euros en métropole. Aux Antilles.
Alors, 9 euros peut-être pas, mais il coûtera... En fait, c'est simple. Moi, donc, je vais régulièrement aux Antilles pour mes enquêtes. Et régulièrement, je loue, non pas une chambre d'hôtel, mais un Airbnb. Et donc, je fais quelques courses pour vivre. En gros, acheter un pack d'eau, un pack de bière, et 2-3 conneries, c'est 50% plus, c'est le double du prix en France, quoi. Je m'en tire. C'est difficile de faire, mais même en achetant que ça, d'avoir des tickets de caisse au supermarché inférieurs à 40-50 euros, quoi. Alors que en France, pour ça, on en a à quoi ? Allez, 20 euros maxi.
Tout à fait.
Donc, et c'est là où on voit, où on est frappé tout de suite par, oui, ça coûte cher de vivre dans les îles, en Martinique et en Guadeloupe. Et alors, qui plus est, c'est ça la double peine, c'est que donc on a vu 27% d'après l'INSEE, donc des familles martiniquaises en situation de pauvreté. Et cette étude-là, que je cite dans le papier de Libération, dit aussi que le revenu de ces familles pauvres est inférieur, le revenu moyen de ces familles est inférieur au revenu moyen des familles pauvres en France. Et malgré tout, elles doivent payer 40% plus cher, et c'est encore plus élevé quand sur un certain nombre de produits très spécifiques, l'eau évidemment, là on atteint des sommets quand on sait qu'il y a des problèmes d'eau, d'accès à l'eau potable, que ça soit en Martinique ou en Guadeloupe, voilà, mais le pack d'eau c'est 7, 8, 9 euros le pack des viandes, enfin d'eau de la métropole qui est importée dans les îles, et donc les biens les plus essentiels sont encore plus chers que la moyenne des biens, donc c'est vraiment la double ou triple peine pour ces familles défavorisées.
Alors, les causes. Si je te dis GBH...
On rentre dans le dur tout de suite, là.
Et des pointes. Oui, je rentre dans le dur.
Voilà,
c'est donc, grâce à ton article que je rentre dans le dur.
Alors, ces trois noms, ce sont les noms des trois principaux groupe de la distribution, de la grande distribution, qui se partage le marché de l'alimentaire et du non-alimentaire. Pour donner un exemple, c'est simple, GBH, c'est le groupe Bernard Ayotte, donc Becquet, comme les deux autres, hein, sont que des familles de Becquet, donc les anciens grands propriétaires terriens esclavagistes, qui ont fait fortune à partir du foncier, de la banane et de la canne à sucre, et qui ont ensuite construit des empires industriels, enfin plutôt dans la grande distribution, et pas pour rien qu'ils sont dans la grande distribution. Ça leur permet justement de maintenir cette économie
de comptoir,
cette économie coloniale. Et donc Bernard Ayotte est considéré, contrôlé 40% de l'économie des îles, de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est-à-dire quand il y a 100 euros qui circulent dans l'économie, il y en a 40 qui tombent dans sa poche, dans la poche de ses filiales. C'est un homme qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Au début des années 80, c'était juste un empire foncier. Banane, canne à sucre, et qui s'est diversifié d'abord dans la distribution automobile, et puis qui a ensuite acquis les franchises, et principalement la franchise du groupe Carrefour, et qui a eu l'intelligence, parce que faut lui reconnaître cette intelligence, c'est pas un abruti, loin de là, contrairement à la plupart des béquets, d'avoir intégré son groupe verticalement, c'est-à-dire il a remonté toute la chaîne logistique, ce qui fait que quasiment quand un produit sort d'une usine en France pour partir en Martinique ou en Guadeloupe, il contrôle toute la chaîne logistique, et évidemment il prend chaque filiale de cette chaîne-là, prend sa marge au passage, et donc quand il dit que ses magasins de grande distribution font 2 ou 3% de marge comparable aux marges des supermarchés en France, ce qu'il oublie de dire, c'est que derrière, il a accumulé déjà 10-12% de marge grâce à ses filiales qui sont en amont de la grande distribution. Donc c'est quelqu'un de richissime, aucune filiale ne dépose ses comptes alors que c'est une obligation légale. Donc on ne sait pas exactement l'ampleur et l'emprise qu'il a, mais il est quasiment partout. Et d'ailleurs, en plus, il a des partenariats, des co-entreprises avec la plupart de ses concurrents qui, de toute façon, doivent passer par un moment ou un autre par l'une de ses filiales pour importer des produits. Et puis aussi, il est tellement fort qu'il a un accord. Moi, c'est ce que m'a dit un de ses concurrents dans un secteur, c'est qu'il a un accord avec, ou en tout cas un accord implicite, si ce n'est un accord explicite, avec le groupe CMA, le groupe de transport maritime CMA, CGM, qui est archi-dominant dans la desserte des îles depuis la métropole, et ce qui lui permet d'avoir des tarifs un tiers moins chers que ceux de ses concurrents. Donc quand il y a 2000, 3000 euros sur le prix d'une caisse en moins à payer par Bernard Ayot par rapport à ses concurrents, et qu'on commande des milliers de caisses par an, ça fait vite beaucoup d'argent, ça fait vite beaucoup de coûts en moins, de coûts d'exploitation en moins, ça fait vite beaucoup de marge en plus, avantage que n'ont pas ses concurrents. Donc on comprend que cet homme est ultra puissant dans les îles. Et les deux autres groupes, donc Parfait, c'est son concurrent, c'est son principal concurrent, mais en gros c'est 20% de la grande distribution. Et le troisième, c'est surtout il est aussi auprès de Carrefour, et c'est les magasins de petite taille qui sont en centre-ville, les Carrefour Market, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que Bernard Ayot a su constituer un empire. Qui permet de maintenir en place cette structure économique et sociale coloniale, et qui fait que, puisque le gouvernement actuel ne veut pas agir et ne veut pas appliquer notamment la loi Lurel, que le précédent gouvernement avait fait passer en 2016 ou 2017.
C'est un sénateur qui a fait passer la loi de la vie chère.
Ouais, Victorin Lurel, c'était le président du socialiste du conseil régional de Guadeloupe, et il a été ministre des Dom-Tom de 2012 à 2015, de mémoire, 2014-2015.
Et la loi date de 2013.
Ouais, la première loi date de 2013, et puis il y a une seconde loi sur la vie chère aussi. Les deux lois se complètent, mais les décrets ont été publiés, les derniers décrets assez tardivement, mais ils n'ont jamais été appliqués, alors qu'on pourrait utiliser cette loi pour justement casser ces monopoles, ou ces oligopoles plus exactement, et avoir une véritable action sur les prix, sur la formation des prix. Bon, évidemment, avec Macron qui n'a qu'une idée, c'est d'enrichir les riches, on voit bien qu'une telle loi ne peut pas être appliquée.
Alors, et pour Des Pointes, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Mais c'est ça, c'est le troisième larron, lui aussi, famille Becquet, comme les deux autres, qui est donc à la tête, lui, des magasins de petite taille de centre-ville, donc les Carrefour Market essentiellement. Mais vraiment, les trois ensemble font qu'ils contrôlent quasiment quoi que... 75% de la distribution dans les îles. Le reste, c'est des tout petits acteurs qui en plus, n'ont pas accès directement aux centrales d'achat des grands groupes en France, donc qui passent par les centrales d'achat essentiellement d'Ayotte. Donc ça veut dire que leurs prix, donc déjà leurs marges sont plus faibles que celles d'Ayotte, évidemment, et puis leurs prix dépendent du prix que veut bien leur faire Ayotte. Donc c'est de la fausse concurrence. Et par ailleurs, l'un des problèmes, c'est que certainement aujourd'hui, l'autorité de la concurrence, qui est supposée contrôler les concentrations, notamment dans la grande distribution et notamment dans les territoires d'outre-mer, n'a pas les bons instruments aujourd'hui pour contrôler la concurrence, le niveau de concurrentiel. Leur critère, c'est, comme en France d'ailleurs, c'est la surface, les mètres carrés. Et donc, et la limite, c'est une enseigne ne peut pas avoir plus de 25% de part de marché en termes de mètres carrés. Bon, ce qu'a fait, par exemple, le groupe de Bernard Ayotte, c'est que quand, avec sa marque Carrefour, il est arrivé à ses 25% aux Antilles, et qu'il pouvait plus ouvrir de nouveaux magasins, il a simplement repris une ancienne enseigne en déshérence qui n'existe plus en métropole, qui s'appelle Euromarché. On a Intermarché, mais Euromarché a disparu. Oui. Il l'a recréé en Martinique, et donc il a dit à la concurrence, mais regardez, c'est deux marques différentes, c'est deux enseignes différentes. Sauf que quoi? Donc il a pu ouvrir de nouveaux magasins sous la marque Euromarché, sauf que quels sont les produits qui sont distribués dans ces magasins Euromarché? Ce sont des produits Carrefour. Donc il faudrait certainement que l'autorité de la concurrence arrête d'être naïve. Bon, entre nous, elle ne l'est certainement pas, et considère que ce qui compte, ce ne sont plus les mètres carrés, mais dans ce cas-là, faut les consolider au niveau du groupe et non plus au niveau des enseignes, et surtout aussi de contrôler les chiffres d'affaires, parce qu'on verra bien à ce moment-là qu'effectivement, la part de marché du groupe Ayotte est outrancière.
D'accord. Alors, le 20 septembre, deux articles sont sortis, donc il y a le tien dans Libération, mais il y a aussi qui a l'avantage d'être en libre accès sur le site de Libération, dans la rubrique économie, et il y a l'article d'une consoeur, Amandine Asensio.
Oui, c'est une consoeur qui vit en Guadeloupe, excellente journaliste.
Voilà, qui s'appelle « La vie chère aux Antilles, un relent de l'époque coloniale ».
Tout à fait.
Qui a
voilà.
Attiré mon attention. Et qui dit, depuis le 1er septembre, des manifestations contre la vie chère en Martinique créent des tensions dans le territoire. Cette question de la vie chère n'est pourtant pas nouvelle. C'est un fait qui perdure du fait de la structure de l'économie dans les ex-colonies. Donc voilà, tout notre propos dans cette émission.
Tout à fait.
Alors, elle parle de... Elle fait parler Aude Goussard, secrétaire du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. RPP... RAC.
Oui.
Voilà. Et... Elle dit comment se passe, et ça je voudrais que tu en dises un mot, la mobilisation sur le terrain. C'est-à-dire pas de violence, oui.
Non, on ne peut pas dire ça. Malheureusement, on ne peut pas dire ça.
C'est le mot de Aude Goussard. Mais il y a des opérations coup de poing, il y a des blocages de supermarchés. Raconte-nous comment ça se passe.
Alors, étant vivant à Paris et n'ayant pas été sur place au moment où le mouvement s'est déclenché, donc début septembre en Martinique, c'est un témoignage indirect, donc c'est d'après ce que je lis de la presse locale, enfin pour celle qui fait un tout petit peu de travail journalistique, et de ce que me disent mes contacts sur place. Au début, ça a été un mouvement lancé par un ensemble assez large de mouvements politiques en Martinique, relayés par les syndicats, et qui a pris une forme assez intelligente qui était d'aller manifester devant ces grandes surfaces sans casse, évidemment, sans violence, etc.
Voilà.
Qui était un mouvement pacifique dans lequel ils sont allés occuper et empêcher ces magasins d'ouvrir ou de fonctionner, notamment un très grand supermarché qui est, si je me trompe, au Lamantin ou juste après, et qui est un peu la zone phare, l'une des zones phares du commerce. Et donc, c'est un mouvement qui a, au démarrage, était plutôt très large, très consensuel. Et puis, voilà, le mouvement dont tu parles s'est fait remarquer parce qu'il a pris en main, enfin, d'abord pour un fait divers. Alors, pour le coup, je suis incapable de dire ce qui s'est passé. C'est que le leader de ce mouvement, qui se fait, dont le surnom dans la rue, c'est le R, la lettre, a été arrêté par les forces de l'ordre pour avoir soi-disant saccagé un dépôt de bus ou essayé de tentative de vol d'un bus, on ne sait pas exactement. Certains disent que c'est un coup monté, d'autres voilà. Moi, n'étant pas sur place et ne pouvant pas enquêter, évidemment, je ne rapporte que ce que j'ai lu dans la presse. Mais ce personnage très particulier, qui est donc entouré de deux secrétaires générales adjointes, qui sont deux femmes dont on me dit le plus grand bien par ailleurs, a un lourd passé. Il est bien connu de la justice martiniquaise ou de la justice française en général pour des faits assez graves, notamment trafic de drogue. Donc c'est un profil assez particulier. Dont on a du mal, en tout cas mes correspondants, mes contacts sur place, ont du mal à comprendre les véritables motivations. Si c'est juste une véritable motivation et uniquement motivation sociale, ou s'il y a autre chose derrière, ils ont du mal à comprendre comment ce personnage a pu devenir le Robin des Bois et s'imposer au point que pendant des semaines, alors bon, il a été donc arrêté, relâché, sous contrôle judiciaire, il me semble, mais il s'est imposé à la tête du mouvement social qui a commencé à prendre des tournures beaucoup moins consensuelles, beaucoup plus revendicatrice dans le sens où ça a débouché sur des émeutes il y a une semaine à Fort-de-France, des émeutes assez graves quand même avec des pillages et ça s'est passé alors que c'était lui qui était à la tête du mouvement, donc même si le mouvement lui a échappé, c'est pas lui qui a commandé ces pillages et ces émeutes, c'est dans ce contexte-là qu'elles se sont produites, alors que au démarrage, encore une fois, c'était un mouvement pacifique qui manifestait une colère sociale par des slogans, par une présence, par des actions qui étaient particulièrement médiatisées, hein, aller occuper des magasins pour signifier la colère populaire. C'était une stratégie pensée. Ce qui est sûr, c'est que donc la nature du mouvement a évolué. Les syndicats en sont partis. Les hommes politiques, enfin un certain nombre de leaders politiques, ont pris aussi des distances avec le mouvement. Et ce qu'on voit là depuis que il y a le couvre-feu qui a été imposé par le préfet dans plusieurs villes de Martinique, c'est que apparemment les syndicats, les principaux syndicats, réinvestissent le mouvement. Peut-être pour essayer de lui redonner une cohérence et une structure et éviter de nouveaux dérapages. Moi, j'ai eu l'un de mes contacts, c'était jeudi, vendredi dernier, qui était très inquiet parce que les rumeurs qui circulaient annonçaient que les violences qui avaient été commises à Fort-de-France allaient se poursuivre dans d'autres villes de Martinique. Et ça, c'est bon pour personne, hein, ni les plus pauvres, ni évidemment pas les plus riches, mais c'est surtout les plus pauvres parce que c'est leurs magasins de proximité qui vont flamber. Ce sont leurs voitures ou les voitures des voisins qui vont flamber. C'est pas forcément les plus riches. Bon, ok, d'accord, leur entreprise, leur entrepôt vont être dévalisés. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? De toute façon, ils sont assurés. Donc, ils sont suffisamment riches pour que ça les atteigne pas. Donc, on sait bien que les émeutes urbaines, les premières victimes des émeutes, c'est les classes les plus pauvres, les plus défavorisées. Donc voilà. Et puis il y a aussi, parce que c'est un vrai problème dans les îles, un problème d'armes. Apparemment, il y a eu des armes qui ont circulé ces dernières semaines. Il y a eu des tirs contre les forces de l'ordre. Donc une évolution un peu à la Kanak. Mais évidemment, entre ce qui se passe en Kanaky et ce qui se passe aux Antilles, c'est pas tout à fait comparable. Même si, encore une fois, c'est pas de remettre en question la légitimité de la contestation sociale. L'ordre colonial en Kanaky est beaucoup plus violent que l'ordre colonial en Martinique et en Guadeloupe. Donc, autant on peut comprendre que, oui, les Kanaks s'arment pour se protéger des milices d'extrême droite caldoche et des copains de Macron, autant tirer sur les forces de l'ordre, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique, c'est un peu incompréhensible aujourd'hui.
D'accord. Alors Thierry, on va faire une pause.
Hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti.
En pas de différence, malgré grande la connaissance, nous commençons patience. Génération d'intolérance, toujours craint et puis respect. Discerner avec simplicité, c'est vrai. Toujours coûter en silence, adopter la vérité.
Hélas, hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas, pays mêlé, hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti.
Pour dire que vous faites telle ou telle affaire, qui vous dit que vous avez bouché les yeux, est-ce la vie de la nuisance? Qui ça ou t'es qu'elle est nier? Tribulation ou bien ils ont choisi? Nous trouvons la connaissance pour nous profiter de la science.
Hélas, hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti.
Chercher l'intelligence, estropier la vanité, ou presque trouver la délivrance. Tchèou, c'est ton beau l'injustice, pas ni plaisir en méchanceté, ça. qui a l'esprit équilibré pour y chercher sincérité.
Hélas, hélas, pays, hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas, pays, hélas, Martinique, nous piti, nous piti, nous piti. Travaillez-vous toujours, faites le bien. Évitez mauvais paroles. Aidez tout ça qui n'est besoin. Condamnez toute vie et pensée. Toujours dit ça qu'a édifié. Hélas, hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique. Nous piti, nous piti, nous piti. Hélas. Hélas, pays, hélas, Martini, nous piti, nous piti, nous piti.
De Radio Libertaire, nous sommes dans l'émission, la nouvelle émission du groupe Louise Michel, La Rage Dedans, chaque vendredi, un vendredi sur deux, de 16h30 à 17h30, avec comme premier invité Thierry Gadeau, journaliste d'investigation, et nous sommes sur la crise des Antilles. Alors Thierry, en 1959, aux Antilles, en Martinique, un accident de la route provoque...
Il y a une crise sociale, un mouvement d'ampleur, les forces de l'ordre à l'époque, donc les CRS de l'époque, tirent dans la foule. 3 morts, sont 3 lycéens, si je me souviens bien,
oui,
qui ne manifestaient même pas. Et évidemment, ça va créer un choc, un drame absolu. Et les élus martiniquais imposent et obtiennent de l'État à l'époque que les CRS partent de Martinique et n'y ont jamais remis les pieds jusqu'à il y a une semaine, quand il y a eu les premières émeutes à Fort-de-France. La seule réponse d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne comprend que ça, il n'a aucune empathie pour autrui, tout ce qu'il comprend c'est le rapport de force, donc il a renvoyé une compagnie de CRS aux Antilles. C'est sa seule réponse à la crise sociale, à la désespérance sociale. Voilà, donc ça montre bien sa personnalité. Il n'en a rien à faire de rien. Tout ce qui l'importe, c'est laisser les riches s'enrichir. Et dès qu'il y a la moindre contestation, bah c'est la politique du bâton et de la violence policière.
Alors, la 8e compagnie de CRS qui a été envoyée en Martinique, elle vient de Mayotte, où elle a participé à l'opération Wambushu. Donc c'est vraiment l'État colonial dans toute sa splendeur.
C'est l'État raciste dans toute sa splendeur, si je peux te corriger. Mais moi je le dis parce que
c'est l'État... On va m'accuser d'être parti pris.
Minimum xénophobe et plutôt raciste. Il est clair que structurellement, il y a une longue tradition de racisme des classes dirigeantes en France, en tout cas d'une partie d'entre elles, pas de toutes évidemment, mais d'une partie d'entre elles. Et on le voit bien aujourd'hui, de la façon dont ils se comportent à Mayotte, la façon dont il se comporte en Kanaky, la façon dont il se comporte aux Antilles, c'est pour rétablir l'ordre colonial, l'ordre raciste et tirer sur les pauvres.
Oui. Alors, donc, on a appris tous par les dépêches AFP que le préfet de Martinique, M. Bouvier, interdisait les manifestations contre la vie chère dans 4 communes, dont Fort-de-France. C'est fort de café, si je puis me permettre. D'abord, c'était jusqu'à lundi dernier, ensuite jusqu'à jeudi dernier, et celui de la Réunion a embrayé pour des couvre-feux pour les mineurs.
En Guadeloupe aussi, oui. Alors, c'est la seule réponse que les préfets sont laissés démunis face à, parce qu'ils peuvent pas répondre aux revendications sociales totalement légitimes des populations, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique, puisque l'État ne veut rien donner.
Ça c'est acté,
c'est clair. Donc leur seule réponse c'est quoi? C'est couvre-feu et envoyer les forces de l'ordre. D'autant plus que tout ce que leur propose l'État, encore une fois, c'est comme durant la crise du Covid, c'est des forces de l'ordre supplémentaires, des bataillons de CRS, voire du GIGN, comme si ça allait calmer la colère sociale. Ça va peut-être un temps la calmer, mais les braises continuent
de couver,
et de toute façon ce n'est que reporter et ce n'est qu'aggraver la situation. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la situation est quand même extrêmement grave aux Antilles, et il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on regarde les blogs, les réseaux sociaux d'un certain nombre de groupes indépendantistes, martiniquais et guadeloupéens, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est faut faire aux blancs ce que le Niger et le Burkina Faso a fait à la France.
Dégage.
Voilà. Il faut comprendre aujourd'hui, alors on ne peut pas soutenir ça, mais qu'une partie de ces groupes aujourd'hui ont fait allégeance à l'Azerbaïdjan, qui les finance. Alors l'Azerbaïdjan manipule ces groupes pour se venger du soutien apporté par la France à l'Arménie,
À l'Arménie, oui, pardon.
Utilise ces groupes évidemment pour foutre le bordel, excusez-moi de du mot, mais ce qui est la réalité en France. Mais ces groupes aujourd'hui cherchent des soutiens extérieurs, parce qu'il n'y a aucune réponse politique et sociale en France. C'est ça le problème majeur. Et ces groupes indépendantistes, aujourd'hui, sont de plus en plus attirés vers un suprémacisme noir, sont très influencés par cet activiste suprémaciste noir, antisémite, franco-béninois qui s'appelle Kémi Séba, qui a un vrai poids, une vraie influence en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et donc, ça va très mal se terminer. Il y a déjà eu des tentatives de meurtre de métropolitains en Guadeloupe, je l'ai raconté dans Blast, pour des trucs qui sont juste aberrants. Il y a des tentations de violence extrême, je l'ai raconté aussi dans Blast, en Martinique, à propos de la propriété d'un lotissement, mais qui on voit bien que les dérapages, que la contestation sociale ne trouvant pas de débouché, aujourd'hui tourne à la confrontation et à la confrontation armée entre noirs et blancs. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Mais ça tourne comme ça parce que l'État se refuse à donner une réponse politique, sociale, économique à la crise profonde dans laquelle s'engluent la Martinique et la Guadeloupe. Les responsabilités sont allées à chercher du côté de l'État français.
Oui, elles sont politiques. Alors, il ne faut pas oublier que c'est ce que rappelait ta consoeur, Madame...
Amandine Asensio.
Asensio, que si on se réfère aux travaux de Thomas Piketty, on montre que les anciennes colonies esclavagistes, qui figurent parmi les systèmes les plus inégalitaires de l'histoire, les 10% les plus riches détiennent plus de 80% des revenus, voire 100%. Bon, ça, je ne suis pas tout à fait... Bon.
C'est un peu excessif. Le niveau de concentration de richesse aux Antilles est évidemment extrême, puisque il y a, après la fin du système esclavagiste, il n'y a pas eu de grande réforme foncière. Donc, la propriété foncière est essentiellement détenue par les béquets. Les familles, les anciennes familles d'esclaves ont reçu très peu de terres. Et en plus, ce sont, alors, on pourrait, ton historien pourrait en parler, mais
Marc
Bélissa. Ouais, Marc Bélissa pourrait en parler, mais après, à la fin de l'esclavagisme, ça a été le travail forcé qui leur a été imposé. Parce que les anciens esclaves, on vous paye un salaire, mais de misère, et surtout, vous êtes obligés de retourner travailler dans les plantations dans lesquelles vous étiez esclaves. Donc, on peut aussi comprendre un peu d'où vient toute cette colère sociale quand même. C'est que la France n'a rien fait pour réparer les souffrances qu'elle a commises.
Elle ne les a pas reconnues et elle ne les réparera pas.
Voilà, exactement. Et donc, tant que ça n'aura pas été fait, tant que ces actes de réparation, ces reconnaissances des souffrances, des douleurs infligées, des crimes de l'humanité qu'était l'esclavage, n'aura pas été reconnu par la France, le dialogue est quasiment impossible. Ça commence par là, la réparation, ça commence par là, le dialogue social pour essayer de sortir de cette crise.
Alors que Macron est prêt à discuter de mémoire avec l'Algérie, les colonies, c'est pas la peine.
Ça, c'était avant l'élection de 2017. Je crois que depuis, il a oublié.
Voilà. Donc, non, un peu d'humour. Non.
Mais, oui.
Ce que dit Thomas Piketty, c'est que les esclaves partaient de zéro alors que les propriétaires ont été indemnisés. Il le dit très bien, Marc Bélissa, dans notre émission.
Tout à fait.
On le voit au site du groupe Louise Michel. Donc, partir de zéro, c'est même partir de en dessous de zéro.
Oui.
Ils se sont construits petit à petit, et malgré ça, sans aide. Et en plus, on leur enfonce la tête.
Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que, donc, après 1848, donc la fin de l'esclavage, donc, les anciens esclaves étaient obligés, pour la plupart d'entre eux, de retourner travailler dans les plantations, les habitations, comme ça s'appelle en Martinique. L'idée, c'était quoi? C'est qu'en fait, c'était du travail forcé, parce que, certes, ils avaient un salaire, mais très faible. Ils payaient le loyer de la case qu'ils habitaient, de l'habitation qu'ils avaient, au propriétaire de la plantation, au planteur, et le magasin général appartenait au planteur dans lequel ils pouvaient se fournir pour les biens essentiels pour vivre, ce qui fait qu'à rapidement dans le mois, ils avaient plus rien, ils avaient plus un centime, donc aucune possibilité d'accumuler un quelconque patrimoine. Donc c'était un faux salaire en fait qui leur était versé. Donc ils étaient plus esclaves, mais ils étaient toujours esclaves en fait. Donc ça, c'est la base du système. Alors en même temps, faut prendre aussi un peu de recul. Ça n'a pas empêché la création d'une petite petite classe moyenne bourgeoise aux Antilles, parce que certains de ces anciens esclaves sont devenus des ouvriers ou des artisans indépendants. Ils ont pu, l'un de mes copains, il me raconte que son grand-père était le premier procureur noir de Fort-de-France. C'est à la fin tout début du XXe siècle. Donc on voit bien qu'il y a pu y avoir, dans quelques cas quand même, une amélioration de la situation. Mais pour l'immense majorité de la population...
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas eu. Et d'ailleurs, au point que quand, à la fin des années 50, le général de Gaulle va visiter assez longuement les Antilles, il en revient absolument effaré par la misère, en se disant « mais c'est pas possible que deux départements, puisque ce sont deux départements depuis 1946, soient... aussi pauvre, et c'est lui qui va déclencher le premier grand plan de modernisation pour essayer de sortir justement de cette économie coloniale, basée essentiellement sur l'agriculture et qui offre très peu de débouchés, très peu de chances à la population locale. Donc voilà, mais ça n'a pas marché.
Non, et ça n'en prend pas le chemin.
Et non, parce que la situation s'aggrave et on le voit bien. D'ailleurs, le symbole le plus frappant, c'est que les deux îles connaissent une décroissance démographique depuis maintenant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'elles perdent de la population parce que les jeunes qui ont la chance de pouvoir faire des études, après le bac, ils choisissent plutôt de partir en métropole ou en Amérique du Nord, mais très peu en fait. En Amérique du Nord, c'est essentiellement en métropole et ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de travail pour eux là-bas.
Il n'y a pas d'avenir.
Il n'y a pas d'avenir. Et ceux qui rentrent, c'est très compliqué. Donc, parce que les entreprises françaises qui peuvent avoir des filiales locales, on le sait bien que les entreprises sont, la majorité d'entre elles sont racistes aussi sur leur recrutement. Donc, t'es pas blanc, donc t'as rien à faire dans, tu peux pas devenir cadre ou très compliqué, quoi. Donc, les débouchés possibles, et puis la fonction publique, t'es pas, envoyé sur des postes en fonction de ta couleur de peau, évidemment. Donc, tu peux faire une belle carrière dans la fonction publique, mais tu n'iras pas forcément aux Antilles, ce qui est aussi un problème, parce que si la fonction publique et les cadres de la fonction publique en Martinique, en Guadeloupe, ressemblaient un peu plus à la population que ce n'est le cas aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait aussi une relation différente avec l'État, évidemment.
Alors, les solutions. On va pas désespérer la population. Il y a des solutions qui existent. Tu en parles dans ton article en disant il faut rétablir le contrôle des prix.
Alors, pour le coup, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un député, un maire, le maire de Saint-Joseph, qui est aussi un chef d'entreprise, qui s'appelle Yann Monplaisir, le groupe Monplaisir. En gros, c'est les déchets, c'est un grand groupe de sur l'environnement et sur le tourisme, puisque je crois qu'il gère les Club Med en Martinique. Mais Yann Monplaisir, donc c'est divers droites, ça s'y approche du RPR, les Républicains, mais qui a fait sécession. Et lui, son position, c'est qu'il faut contrôler ces groupes de grande distribution réimposés et donc quelqu'un de droite qui dit qu'il faut contrôler les prix. Voilà, contrôle des prix. Donc c'est pas quelqu'un, c'est l'extrême
pas
gauche, c'est pas LFI,
c'est pas les anarchistes,
c'est un mec de droite, un chef d'entreprise qui dit
responsable.
Faut contrôler ces groupes de grande distribution et faut imposer le contrôle des prix. Mais je pense que c'est une solution court-termiste. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la mettre en place. Mais le problème, c'est l'iniquité sociale qui existe depuis 1848. C'est là-dessus. Et si on veut régler réellement le problème de la misère sociale, la misère économique, la misère culturelle dans les îles, il faut que l'État s'engage sur des réparations. Ça peut et sur une réforme foncière qui rééquilibre. Les patrimoines, parce qu'on peut pas avoir effectivement, comme le dit Piketty, une telle concentration de patrimoine, 80% du patrimoine dans les mains des 10% les plus riches, qui sont essentiellement des béquets. Il y a très peu de très grandes fortunes d'origine noire, tant que l'État français n'imposera pas le démantèlement de cette économie de comptoir qui ne peut passer que par une redistribution du patrimoine accumulé par ces anciens esclavagistes sur le dos des populations noires qui ont été importées de force du temps de l'esclavage, il n'y aura pas de sortie de crise sociale possible. C'est le préalable. Alors, on peut mettre en place plein de mesures pour essayer de faire un amortisseur social, évidemment. Mais le préalable, si on veut être sérieux sur ces questions-là, il faut démanteler cette économie de comptoir, cette économie coloniale. Il faut redistribuer les patrimoines. Et à partir de là, on pourra commencer à discuter.
Alors, et l'octroi de mer, qui est une espèce de continuum colonial, qu'est-ce que tu en fais dans cette solution?
Alors,
Parce qu'il finance les communes, quand même.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème de l'octroi de mer est extrêmement compliqué. Pourquoi ?
Alors, il faut expliquer déjà ce que c'est.
Alors, l'octroi de mer, c'est une vieille taxe qui a été instaurée du temps de la royauté sur toutes les importations qui arrivaient. C'était un droit de douane, quoi, en gros, sur les importations qui arrivaient dans les îles. Évidemment, il fallait remplir les caisses du roi quand même, faut pas déconner. ou les caisses des fermiers généraux qui devaient s'occuper, qui étaient l'équivalent à l'époque des directeurs régionaux des finances publiques actuelles. Donc voilà. Cette taxe-là, en fait, a été transformée et son existence a perduré depuis, sous la République, en devenant officiellement une taxe sur les importations, soi-disant pour protéger les productions locales. Bon. Ouais. Alors, c'est une blague. Ça, oui. C'est clair. Que ce rôle-là, elle ne le joue pas tout de suite. Mais juste, je vais vous dire, c'est très simple. En fait, elle s'applique aussi sur les productions locales et notamment sur la facture d'eau, l'eau potable qui est produite sur place. Hein. Bah, vous payez sur la facture d'eau. Il y a un tas de taxes qu'on paye tous. La TVA, la taxe pour les agences de l'eau. Eh ben, en Guadeloupe et en Martinique, ils payent une taxe supplémentaire. C'est l'octroi de mer. Non mais voilà.
Alors pourquoi c'est hallucinant.
Pourquoi l'assiette de cette taxe a-t-elle été élargie au point de concerner quasiment tous les produits et tous les services? C'est simplement parce que comme il y a une pauvreté endémique dans les îles, les collectivités locales n'avaient pas suffisamment de ressources fiscales, et donc on s'est dit bah voilà, on va redistribuer l'octroi de mer. Et la taxe sur les produits pétroliers régionales, qui est une sorte d'octroi de mer supplémentaire, auprès des collectivités locales, donc les mairies, le conseil général, le conseil régional, et ça va permettre d'améliorer les finances locales, ce qui permettra aux collectivités locales de remplir leur rôle en matière de politique sociale, culturelle, éducative, etc., etc. Et en fait, non, ça n'a servi à rien, parce que les collectivités locales sont quasiment toutes en faillite. Pas les conseils départementaux et généraux, départementaux et régionaux pour la Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique et la fusion des deux en Martinique. Mais c'est tellement, le système est tellement clientéliste que cet argent qui fait que les collectivités locales des Antilles sont celles qui ont les plus grosses recettes fiscales par habitant d'après la Cour des comptes, sont celles qui sont aussi le plus endettées et le plus en faillite de la France. Voilà, donc on voit bien que c'est une taxe perverse, c'est un peu comme la rente pétrolière, ça tue. Voilà. Et donc, je pense que dans un premier temps, faut remettre en place la fiscalité locale, faut réfléchir à une réforme complète de la fiscalité locale, et faut démanteler cet octroi de mer qui, par ailleurs, n'a jamais protégé les productions locales. Moi, je peux vous dire, par exemple, j'ai un copain martiniquais qui me racontait, dans les années 80, la Martinique était autosuffisante en tomates. Je veux dire, la tomate, c'est bien, on peut la produire dans n'importe quel pays, sous n'importe quel climat, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quasiment 100% des tomates sont importées. Voilà. Il n'y a plus d'agriculture, il y a très peu d'agriculture. Toute la filière de production de viande s'est effondrée en Martinique. C'est la même chose en Guadeloupe, c'est la même chose à La Réunion. Donc, on voit bien que l'octroi de mer, ça permet de maintenir en vie un système prédateur, un système corrompu, un système clientéliste, mais ne sert en rien les intérêts de la population.
Ouf. Thierry, qui est un vrai spécialiste des questions sociales. Je suis contente d'avoir commencé notre série d'émissions avec toi.
Je te remercie.
Alors, je rappelle que vous êtes dans la deuxième émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, La Rage dedans. La première émission s'appelle Pas de quartier. Elle est un mardi sur deux de 18h à 19h30. Donc, vous pouvez réécouter l'émission avec Marc Bélissa sur les colonies et la Révolution française. La Révolution française et les colonies, qui vous explique bien le contexte de l'économie et de la, des colonies et l'économie coloniale. Et Thierry, aujourd'hui, vous a expliqué la suite, le pourquoi de la crise et pourquoi il faudrait qu'on manifeste nos solidarités envers nos concitoyens antillais.
Tout à fait.
Merci Thierry.
Merci Mariama.
Alors, je rappelle que ton excellent article, Crise sociale aux Antilles, deux points, pourquoi les prix sont-ils si élevés, publié le 20 septembre 2024 à 6h30 et sur le site de Libération, dans la rubrique économie, en accès libre. Par contre, si vous avez Mediapart, vous pouvez donc, si vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez donc vous lire l'excellent article de Ascensio
Amandine,
La vie chère aux Antilles, un réland de l'époque coloniale, qui est aussi publié le 20 septembre. Alors, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre dossier sur une lutte. Je remercie Jean-Michel pour la technique. Je vous dis, faites attention à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure, ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, la voix pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui est mon juge, tel qu'un maghrébin, je t'ai blousé chez mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse de la preuve. La rage. La rage. La rage.
Sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu.
Son negociam, ot veninta del cor, porque canto la flor, flor de l'am, inter ni esperam. Y la chin venuce mi, aura grec, aura franca, y canto con mi, persa ma voce, ed iranta del cor, esperam.
Esperanto. A. A. Arbo. Bo. Bo. Boto. colado.